Bonsoir à toutes et tous, vous écoutez la Société de l'Astronomie Nantes en direct sur Alternante. Ce soir, nous allons vous parler, comme toutes les deux semaines, de la reine de la science, l'astronomie. Vous allez assister une fois de plus à une émission de qualité réalisée entièrement par la Société d'Astronomie de Nantes, où la diversité de son contenu n'a d'égal que le talent de ses animateurs. Hein, vous avez vu ça ?
C'est magnifique. Hein.
Ce soir, nous parlerons de longitude, de photographie astronomique, ainsi que de l'observation de l'Observatoire de Paris et du radiotélescope de Nancy. Vous retrouverez aussi vos rubriques habituelles, le ciel du mois et les actus astro. Sans plus attendre, je vais laisser place à Louis Campion, membre d'honneur de la Société d'Astronomie Nantes, qui va vous conter avec sa verve légendaire l'histoire de la longitude.
Oui, bonjour à tous. Je vais vous raconter ou vous conter un petit peu l'histoire des longitudes, de la longitude, comment les hommes ont réussi à résoudre ce problème qui était quasi insoluble et comment ça s'est passé et ce qu'on faisait autrefois. Alors je commence en vous disant que, vous savez, sur une carte de géographie, sur la Terre, il y a des longitudes et il y a des latitudes. La Terre a été quadrillée. La Terre a été quadrillée en latitude. La latitude, c'est-à-dire c'est la distance qui sépare un point quelconque de l'équateur, et en longitude. Mais si la latitude est une mesure qui a été assez facile à résoudre depuis longtemps, il y a bien longtemps que les hommes savent naviguer en latitude, la longitude était pratiquement un problème insoluble. Pourquoi ? Parce que la latitude s'obtenait très facilement en observant le passage d'un astre au méridien, une étoile, ou le soleil, généralement.
La hauteur d'un astre, plus précisément.
Qu'est-ce que j'ai dit ?
Le passage.
Oui, le passage.
Mais on
oui,
le passage, passage pour voir. Pour
oui, oui, on dit le passage. On dit le passage voilà. Méridien. Oui, on observe plutôt ouais, la hauteur. Et en fonction de cette hauteur, compte tenu de la position de l'étoile du soleil dans le ciel, on arrivait à trouver l'altitude, la distance qui séparait l'observateur de l'équateur. Au début, si vous voulez, les latitudes n'ont pas été déterminé par 23 degrés, 24 degrés, 25 degrés. Non, on savait, partant d'un certain endroit, d'un certain port, on savait lorsque l'on naviguait vers le sud ou que l'on naviguait vers le nord, on savait à quelle distance angulaire on se trouvait du point de départ. C'est comme ça que les Arabes ont navigué dans l'océan Indien le long de la côte est d'Afrique en déterminant ainsi la latitude de tout leur comptoir, Zanzibar, tous ces les Comores et tout ça. Ils descendaient vers le sud et en observant la hauteur du soleil, ils arrivaient à trouver leur latitude. Les Portugais ont fait la même chose dans l'océan Atlantique.
On peut donner un exemple, monsieur Campion. Lorsqu'on a, par exemple, l'étoile polaire, tout le monde sait qu'elle est dans le prolongement de l'axe de la Terre. Si on était au pôle Nord, on l'aurait droit au-dessus de notre tête.
Hein, ben, à peu près. Oui. Si on parle Moyen-Âge ou Renaissance, on se dirait que l'étoile polaire, effectivement, est au nord. Mais elle n'a pas toujours été au nord, parce que, vous savez, il y a un mouvement de l'axe de la Terre,
précession.
Qui est la précession des équinoxes, qui fait que l'étoile polaire n'est pas tout à fait au nord.
Oui, mais vous avez raison. Ce que je voulais dire, simplement, c'est pour prendre un exemple, pour que les gens comprennent, et qu'effectivement, quand on est au pôle nord, par exemple, une étoile comme l'étoile polaire, aujourd'hui, elle serait pile au-dessus de notre tête.
Oui, pratiquement.
Et plus on descend, plus elle va se trouver abaissée sur l'horizon.
Voilà.
Et à limite, à l'équateur, on la voit plus,
à peine. Théoriquement, elle serait donc, à l'horizon, mais on la voit plus.
Tout à fait. Donc la hauteur de cette étoile, par exemple, nous donne l'idée de la latitude.
Et un petit calcul qui est très simple permet, en observant le passage et la hauteur de n'importe quelle étoile et du soleil, de trouver sa latitude. Vous voyez, c'est très simple. Et il y a longtemps que les hommes savent ça, ils ont trouvé ça. Mais par contre, vous savez que pour trouver un point sur une carte ou n'importe où, il y a les coordonnées. Alors il y a la coordonnée, les Y, si vous voulez, c'est la latitude, et les X, c'est la longitude, n'est-ce pas ? Et alors, la longitude est un problème qui a toujours posé... À tous les navigateurs, à tous les cartographes, à tous les hommes politiques, tout ça, la longitude a toujours posé des problèmes. On a tous vu les fameuses cartes qui ont été construites ou bâties, si on veut, au Moyen-Âge, où on voit que les pays sont allongés dans le sens de la longitude. Prenons la France, par exemple, ou l'Europe. Eh bien, l'Europe est étirée dans le sens de la longueur, de l'Est à l'Ouest, parce qu'on n'arrivait pas, on n'arrivait pas à trouver, à trouver le moyen de déterminer avec exactitude sa position, n'est-ce pas? Alors, on savait comment il fallait faire. C'est là le problème. On savait comment il fallait faire parce que la Terre tournant sur son axe, il suffit de mesurer ou de calculer l'heure à laquelle un astre passe au méridien du lieu pour, par comparaison avec le méridien origine, avec un point origine, n'importe lequel, en faisant une petite différence d'heure, on trouvait la longitude.
Oui, on peut prendre l'exemple, par exemple, du Soleil. Quand le Soleil passe au méridien, il est midi, là où on se trouve.
Oui.
Eh bien, s'il passe au méridien et que sur sa montre, on voit qu'il est 3 heures,
eh bien,
en réalité, ça veut dire qu'il est midi chez nous, bien sûr, puisque notre montre, elle suit un peu...
Et qu'à Paris, par exemple...
qu'il est 3 heures chez nous, pardon, et qu'il est midi là où on se trouve.
Voilà, prenons l'exemple Paris et Nantes, par exemple, même maintenant, actuellement... Eh bien, le soleil passera à Paris environ un quart d'heure avant Nantes, si vous voulez.
Mais ça, faut avoir des montres qui marchent.
Voilà. Alors, on vient à ce problème, c'est que tout ça était connu, mais il fallait avoir le moyen. Parce que comment voulez-vous qu'une personne au Moyen-Âge ou à la Renaissance, se trouvant n'importe où sur la Terre, puisse savoir l'heure qu'il est au méridien origine, l'heure qu'il est, je m'en vais vers les Antilles, et bien quand j'arrive aux Antilles, je peux observer par les étoiles ou par le soleil l'heure qu'il est là où je me trouve, et par comparaison avec l'heure de Paris, je pourrais trouver ma longitude, mais je n'ai pas l'heure de Paris. C'est ça qui manquait. Les hommes, les marins, les cartographes, tous auraient voulu pouvoir comparer l'heure de leur de l'endroit où ils se trouvaient à l'heure de leur pays, Lisbonne ou Madrid ou Londres ou Paris ou n'importe quoi. Vous voyez, c'était ça le grand problème, c'était celui-là. Alors on a cherché à résoudre ce problème-là. Sans les montres, à une époque où les montres, on n'avait pas comme maintenant, on a tous une montre à quartz sur le bras, on sait l'heure à telle heure il sera exactement ceci. Non, les gens n'avaient pas de moyens mécaniques, des montres mécaniques, et surtout pour emporter sur les bateaux.
Mais il y en avait des montres mécaniques. Hein. Il y a les fameuses montres à balancier, là, les franc-comtoises. Alors on emmène ça sur un bateau, qu'est-ce que ça donne?
Balance dans l'autre sens.
Oui, voilà. D'abord, on comprend qu'on peut pas amener un engin comme ça sur un bateau. Et puis, vous savez que les premières montres, même à balancier, est retardée ou est avancée d'une demi-heure par jour. Hein. C'était mieux que la clepsydre ou mieux que le cadran solaire, surtout quand il y avait des nuages. Mais enfin, il fallait les remettre à l'heure, justement, de par le soleil, à l'heure solaire, tous les jours. Parce que la technique, si vous voulez, n'était pas encore au point où on avait des montres tranquilles, des montres aussi fiables que ça. Alors, les hommes, des observatoires ont été créés. Greenwich a été créé pour ça, pour essayer de trouver le moyen. Les nations maritimes voulaient conquérir le monde. Et c'était pas le tout de partir, il fallait revenir. Hein, le problème, c'était celui-là.
Il fallait aussi amener les marchandises.
Il fallait surtout amener le bateau. Mettons que la marchandise se trouve à bord du bateau, eh bien, il fallait quand même la ramener. Hein. C'est la différence, je vais peut-être m'étaler un peu, mais c'est la différence qu'il y a entre les Espagnols et les Portugais. Les Espagnols, ils partaient à l'aveuglette sans savoir où ils allaient, même il y en a un qui a découvert l'Amérique, comme ça, alors que les Portugais, eux, ils savaient où ils allaient, et surtout ils faisaient en sorte de pouvoir revenir. Hein, c'est un peu comme le petit pousset qui semait des cailloux sur sa route. Les Portugais ont toujours su naviguer de façon à pouvoir revenir.
Ils semaient des étoiles, eux.
Ben, ils observaient.
Non, c'est vrai, c'est des très bons navigateurs, les Portugais.
Oui, c'est des bons navigateurs. Ouais.
Ça ferait plaisir à notre ami d'Alberto, je crois.
Voilà.
Oui.
Alberto Dalva, de l'émission du dimanche matin, il pourra dire que les Portugais sont des très bons navigateurs.
Oui, très bien.
Il veut dire en portugais, lui.
Il faut le dire en portugais.
Ah bon? Oui, alors vous voyez, on a cherché, les observatoires ont été créés à Greenwich, l'observatoire de Paris, etc., pour essayer de trouver le moyen de calculer la longitude. Alors quel est le moyen de calculer la longitude à une époque où, au moment où on n'a pas de montre? Eh bien, il fallait trouver quelque chose dans le ciel, et vous allez comprendre, il fallait trouver quelque chose hors de notre circuit, hors de la Terre. Maintenant, au 21e siècle, je parlerai d'extraterrestres, un phénomène extraterrestre. Prenons un exemple. Hein. On a souvent encore de nos jours, ça arrive pas souvent, mais quelquefois, vous avez des occultation d'étoiles. Vous avez une planète qui passe devant une étoile.
C'était le cas mercredi dernier où Saturne a occulté une étoile. Malheureusement, à Nantes, il y avait des nuages.
Ça va, oui. Eh bien, c'est un phénomène qui peut être calculé à l'avance et à la minute près. On peut savoir que à telle heure, heure de Paris ou l'heure GMT maintenant, mettons l'heure de Paris à ce moment-là, eh bien, Saturne passerait devant une étoile à telle heure. Eh bien, le marin qui se trouve aux Antilles là-bas, il observe le phénomène et puis il se dit, ben, il est telle heure puisque le phénomène a lieu. C'est un phénomène qui doit, il n'y a pas beaucoup de parallaxe, je pense que ça, il doit être général et on peut le voir de la Terre, enfin de la moitié de la Terre.
Non, c'est vrai que ça lui permet donc de savoir qu'il est telle heure à Paris.
Qu'il est telle heure à Paris et donc lui,
remettre sa pendule.
Comme il calcule, il n'y a pas de pendule.
Pas de pendule.
Comme lui calcule l'heure où il est là, eh ben il peut par différence trouver la longitude.
Il connaît le décalage en degrés.
Il connaît. Alors bien sûr, ça a été, on a évoqué cette chose-là. Oui, c'est très bien. C'est parfait, mais il fallait pouvoir observer des passages d'astres. Vous savez, vous n'alliez pas déjà avant l'invention de la lunette astronomique, vers le début du 1600, le début du 7e siècle.
C'est pour ça qu'il a fallu faire des tables.
Oui. Mais on n'avait pas le moyen de voir le passage d'une planète devant une étoile. Alors, il y a eu autre chose. On a pensé aussi avec les éclipses de lune, par exemple. Vous avez une éclipse de lune, en regardant le passage de l'ombre de la Terre sur le relief lunaire, eh bien, on pensait, tiens, quand l'ombre de la Terre arrive à telle montagne lunaire, etc., il est telle heure. Oui, c'est bien beau, mais enfin, je ne sais pas si vous avez vu des éclipses de lune. Ben, vous savez,
c'est pas facile d'avoir
des détails comme ça. Hein. C'est un peu flou. Alors ça, c'était pratiquement inexploitable. Et il faut dire aussi que la lune, comme les planètes qui occultent les étoiles, ne sont visibles que sur la moitié de la Terre. En même temps, il y a toujours une moitié de Terre où le phénomène ne peut pas être visible. Alors donc, tous les gens qui sont de notre côté, ben, ils sont privés de la chance de connaître l'heure. Alors, on a trouvé une autre combine, les satellites de Jupiter. Vous savez, quand on a découvert, Galilée a découvert les quatre premiers satellites, dix satellites galiléens de Jupiter, on a pu déterminer par l'observation la période de révolution de chacun d'entre eux, et on les voyait disparaître derrière leur astre, derrière Jupiter. Et puis, c'est assez pointu, si vous voulez. C'est quand même assez rigoureux.
C'est très précis, ouais.
C'est précis, oui. Alors, on a donc fait des tables. Des gens ont fait des calculs. On a fait des tables. Et au fond, on a essayé de regarder le phénomène pour le vérifier avant de mettre dans les pattes du marin, quoi. Et puis, on s'est rendu compte, les gens à terre, les astronomes se sont rendu compte que, malgré la précision de leurs calculs, il y avait des dérives qui se faisaient dans les heures ou dans les minutes d'occultation de la petite planète par la grosse.
Ah oui.
Et quelquefois, le phénomène était en avance sur le temps prévu. Quelquefois, il était en retard. Vous me direz combien de temps? Ben, quelques minutes. Hein. Quelquefois, il y avait 8 minutes en avance, quelquefois 8 minutes en retard.
Et comment on savait que c'était en avance et en retard, puisqu'on ne connaissait pas l'heure exacte du phénomène?
C'est par rapport au calcul.
Si, parce que la théorie, on fait
la moyenne.
Non, parce que ce sont les observatoires qui l'ont vu. Hein. Ce n'est pas les marins, ils ne l'ont pas vu, il n'y a pas d'heure. Mais les observatoires, avant de proposer leur table, ont quand même vérifié leurs données. Et on s'est rendu compte que c'était inexploitable. Que des fois, c'était en avance, des fois, c'était en retard. Et on ne savait pas pourquoi. Et puis, au fond, ça a été le fameux cas du fameux Romer, qui était un astronome danois qui travaillait à Paris, et très intelligent. Il a pensé, lui, il y avait une raison pour ça. Il a vu que c'était périodique. Il y avait six mois, c'était en avance, six mois après, c'était en retard, et puis je vous dis, ça faisait quand même 8 minutes en avance, 8 minutes en retard. Donc, 8 minutes de temps sur une position de bateau, ça fait 2 degrés de longitude. On peut pas dire la position d'un navire parmi les rochers à 2 degrés.
En pleine mer, c'est pas très gênant, mais près des côtes, ça peut être gravissime.
Oui.
On en parlera tout à l'heure, justement, de cet astronome qui s'appelle Romer, qui en a profité pour...
Romer, il s'est dit, mais c'est dû au fait que, quelquefois, la Terre, dans son dans son trajet, sa trajectoire autour de, autour du Soleil, est quelquefois du côté de Jupiter, et quelquefois est à l'opposé de Jupiter par rapport au Soleil. Alors il s'est dit, tiens, il a fait des grands que lui, il s'est dit, tiens, c'est dû au fait, au transfert de la lumière, le temps que met la lumière à traverser l'orbite terrestre. Ouais. Il a calculé ça, il a vu que ça faisait à peu près, je crois qu'il y avait une différence de 1000 minutes.
Oui, oui, 1000 minutes, 16 minutes. 1000
secondes. Non, 1000 secondes.
16 minutes, 48 000 secondes.
16 minutes.
40
et puis,
secondes.
En divisant ça, qui est par 300 millions de kilomètres, comme le diamètre, si vous voulez, ouais, de l'orbite terrestre, eh bien, il a découvert que la vitesse de la lumière était de 300 000 kilomètres à la seconde. C'était une approche, mais enfin, c'était comme, il avait découvert ça.
Vous savez qui avait eu cette idée-là avant lui?
Ah non.
Cassini.
Ah oui.
C'était son patron qui l'avait eu, mais Cassini n'y croyait pas vraiment. Et ah le bon jeune Römer a repris cette idée quelques années après.
Oui.
Ouais.
Parce qu'on croyait que la lumière se propageait instantanément. Ça allait tellement vite que les gens croyaient ça vite comme la lumière.
Mais ça, on en parlera peut-être tout à l'heure.
Tout à l'heure, oui. Alors, à Paris, ouais. Je vais continuer, moi, sur ma longitude. Alors voilà, donc, les satellites de Jupiter, inexploitables. Alors, on a trouvé encore autre chose, et c'est celle-là qui a eu le plus de succès, c'est les distances lunaires. Vous savez que la Lune tourne autour de la Terre, et que la Lune se promène sur le champ des étoiles. Comme disait Victor Hugo dans Beaux endormis, cette faucille d'or dans le champ des étoiles, elle se promène. Et alors, il suffit de savoir la distance.
Et quand elle est fausse, ça fait des étoiles filantes qui tombent.
Ouais, peut-être celle-là que ça vient, oui. Là, il y a eu des tables qui ont été publiées à cette époque-là. Toutes les 3 heures, on donnait la position de la Lune sur le champ des étoiles. La position de la Lune avec le côté de la Lune qui était éclairé, qui était donc qu'on pouvait mesurer. Alors, on mesurait la distance entre le bord de la Lune et une certaine étoile qui se trouvait dans la table. On faisait des calculs très compliqués. C'était assez compliqué.
C'est vrai que la Lune, en plus, se bouge très vite.
Oui, okay, justement, c'est pour ça.
C'est pour ça que c'est compliqué, les calculs.
Oui, mais c'est pour ça aussi que la Lune, comme elle bougeait vite, donnait le moyen de pouvoir trouver l'heure d'après sa position par rapport à une étoile. Alors la distance de la Lune à une étoile, eh bien donnait l'heure. Et j'en ai vu dans des vieux livres de navigation des calculs qui étaient faits. Ça prenait une page de calcul. Il fallait en même temps observer des étoiles. Il fallait observer la Lune. Il fallait trouver l'heure qu'il était l'heure dans le lieu où on faisait l'observation, que l'on comparait à l'heure de Paris qui était trouvée par la distance du nerf, etc. Et puis, au fond, on a résolu le problème comme ça.
Le temps qu'on calcule l'heure, il était déjà une autre heure, non?
Oui, mais enfin, c'était surtout la position qui intéressait les gens, quoi.
C'est vrai que l'important, c'est de trouver la position pour pouvoir se positionner. Donc, il fallait savoir l'heure.
Oui, il fallait connaître. Alors, donc, vous voyez tout ça, la longitude, au fond, le problème de la longitude, c'est le problème de l'heure.
C'est le problème qui échappe un peu à l'astronomie. Il était astronomique pendant une certaine époque, mais c'était surtout un problème mécanique. Ça devenait un problème de technologie, on pourrait dire, aujourd'hui.
Le problème a commencé à être résolu lorsque les techniciens ont réussi. On savait que la technique précède toujours la science. Ils ont réussi à faire des montres relativement solides qui résistaient au choc, qui résistait aux températures, qui était assez fiable et assez précise, et puis pour pouvoir aller sur les bateaux. Alors, un des premiers qui a eu une montre comme ça, c'est Cook, vous savez, Captain Cook. Il en avait embarqué 3 ou 4, je crois, parce que on embarquait plusieurs montres.
Parce que le problème, c'est que si on en emmenait une seule, vu qu'on n'était pas sûr qu'elle était bonne, il a fallu bien une deuxième.
Voilà.
Pour savoir si la première est en retard, mais à la rigueur, si c'est pas la deuxième qui a avancé, donc il fallait même une troisième pour en fait savoir laquelle avait
démarré. Quand j'ai commencé à naviguer, moi, eh bien, on avait trois chronos sur le bateau. Trois chronos. Alors, il faut vous dire que c'était des chronomètres qui... Bon, au début, il y a eu du temps avant qu'il y ait des chronomètres sur les bateaux parce qu'ils coûtaient très cher. Il y en a eu dans les marines royales, mais dans les marines privées, vous savez, les armateurs...
Est-ce que vous allez parler de la recherche, de l'annonce qui a été faite pour un prix qui a été donné à celui qui arriverait à conserver l'heure?
Ben, l'observateur de Greenwich avait promis un million.
C'est mieux que sur TF1, quoi.
De livres. non ?
Un million de livres, ouais, à celui qui trouverait le moyen de déterminer la longitude avec précision et avec sûreté. Ouais, je crois qu'il n'y en a que 500 000 qui ont été distribués, parce que pour un créateur de Montoli qui a créé la première.
Parce qu'il faut savoir, en fait, c'était du secret défense, entre guillemets. Ah, oui. Le pays qui arrivait à avoir l'heure précise, il arrivait à avoir des cartes précises, voilà, à naviguer plus facilement.
Voilà.
Donc ça lui faisait vraiment un avantage sur les autres. C'est pour ça qu'en fait Greenwich a proposé un million de livres.
Et encore maintenant, l'avenir appartient à ceux qui sont à l'heure, non ? C'est ça ?
À peu près, on va dire
ouais,
ça.
Ouais, ouais, ouais. L'heure, c'est tout, quoi. Hein ? Alors vous voyez, le problème des longitudes, c'était un problème d'heure. Et lorsqu'on a réussi à trouver des montres fiables, eh bien, on a pu résoudre ce problème. Maintenant, il y a un peu moins d'acuité. Maintenant, on fait le point au GPS. Vous savez, les gens ont tous un GPS, alors qu'ils ont une montre qu'ils n'en aient pas, je sais pareil. Mais enfin, si le GPS tombe en panne, on est bien content de trouver une montre pour pouvoir se débrouiller quand même.
Et M. Campion, vous saurez le faire, parce que on ne l'a pas dit en début de l'émission, c'est important, Louis Campion est expert maritime, c'est un ancien capitaine au long cours, et naviguer, vous savez ce que c'est. Et puis d'ailleurs, vous faites à la Société d'Astronomie un cycle de cours de calcul astronomique, parce que ça vous passionne, et vous êtes aussi là un expert en la matière.
Ouais, bah, je veux bien passer mon savoir aux jeunes.
À vos ouailles.
À vos ouailles. Merci beaucoup pour cet exposé fabuleux. Je rappelle aux fans de Louis Campion, qui sont nombreux, que vous pouvez le contacter en allant sur le site internet de la Société de l'Astronomie Nantes, sainte-fr.com. Dans la partie conférencier, M. Campion fait des conférences, et là vous avez sa trombine d'ailleurs, comme on dit en langage technique, c'est-à-dire sa photo. Vous pourrez le voir pour ceux qui viennent juste de l'entendre. Et aussi, vous avez sa messagerie pour lui envoyer un petit message.
Il a aussi commis une petite blague, enfin plutôt une grosse
farce. Et oui, vous avez en plus la grosse
avec
farce.
Avec le nouveau Stonehenge.
Ouais, le nouveau Stonehenge découvert dans la région nantaise, qui est sur Internet.
Voilà, on vous laisse la surprise. Hein. Côte,
hein. Ouais. Maintenant, approchez-vous tous de vos postes radio, car vous allez être témoins d'un moment inoubliable, la grande première de Pierre Simoneau sur les ondes hertziennes. Ils veulent nous parler du ciel de moi, c'est-à-dire ce qui se passe au-dessus des nuages. Alors Pierre, malgré le trac qui t'empêche de parler, devant des millions d'auditeurs, ce qui doit y avoir bien des millions d'auditeurs sur Internet,
oui.
Qu'y a-t-il ce mois-ci dans le ciel d'intéressant à voir ?
Oh, que d'émotion ! Oh, que d'émotion !
Donc, il y a tellement
quoi de beau chose dans ce ciel du mois de novembre ? Ben, plein de choses. D'abord, je vais vous parler un petit peu du changement d'horaire. Vous rappelez que nous avons changé d'horaire et ceci va avoir une incidence sur le calcul du temps universel.
C'est
puisque
ça.
Il faudra qu'à l'horaire, à l'heure légale, on enlève seulement une heure à partir d'aujourd'hui, puisqu'on a changé d'horaire aujourd'hui.
L'heure légale, c'est pour avoir l'heure légale, il faut
ajouter une heure au temps universel.
Au temps universel. Hein,
voilà. Donc, le contraire, pour avoir le temps universel, on enlèvera une heure à l'horaire légal.
Et pour tout dire, au lieu d'être à l'heure de Varsovie comme en été, on est à l'heure de Berlin, n'est-ce pas, M. Campion ?
Voilà, c'est ça.
C'est très, un problème tout à fait très logique.
C'est un problème de logique.
Au lieu d'être à l'heure de Saumur comme il se devrait.
Oui, oui. Et le deuxième point dont je voulais vous parler, c'est donc de l'allongement continu, enfin, l'allongement des nuits, puisque le soleil, dans son mouvement imaginaire autour de la Terre, continue à baisser sur l'horizon, et il se couchera donc plus tôt, et se lèvera plus tard. Ce qui va nous faire des changements, d'un allongement des nuits de 44 minutes le matin, et de 36 minutes le soir.
Il a de la chance, le soleil, de se lever plus tard chaque matin.
N'est-ce pas ? Oui. Il faut qu'il en profite parce que ça va bientôt changer,
oui,
n'est-ce
oui.
pas ? Alors, au début du mois, le lever, ça sera donc à 6h39 et je parle toujours en temps universel. Le coucher sera à 16h29 en début de mois et en fin de mois, le lever du soleil sera à 7h23 et le coucher à 15h55. Ce qui vous fera gagner pour les observateurs 1h20 sur votre temps d'observation la nuit.
Ce qui est bien.
On va aborder maintenant la Lune. Pendant le mois de novembre. Alors, le mois de novembre, la Lune, si vous sortez, va démarrer par un croissant. Le premier quartier a lieu le 4 du mois.
Mon petit déjeuner aussi, d'ailleurs.
La pleine Lune à partir dans la nuit du 11. Le dernier quartier dans l'après-midi du 18. Et la nouvelle Lune dans la nuit du 25 au 26. Maintenant, je vais vous parler de ce qui peut vous préoccuper plus. Ce sont les planètes. Et on va les prendre un petit peu dans l'ordre. Vénus, en premier lieu, qui se déplace donc du Scorpion vers le Sagittaire, est devenue un astre du soir, qui qui se couchera vers 18h45, temps universel, au milieu du mois.
On peut rappeler que Vénus est plus proche du Soleil, et nous, depuis la Terre, on la voit toujours du côté où il y a le Soleil, soit quand il se couche, soit quand il se lève. Donc oui. Là, c'est quand, après son coucher.
Après son coucher, voilà. Son repérage à partir du 15 du mois ne devrait plus poser de problème. La phase de la planète qui évolue vers un premier quartier est aisément visible à partir d'un petit instrument, d'une petite lunette. Par rapport à Vénus, deux phénomènes intéressants. Le 18, entre 18 et 19h30, rapprochement avec l'étoile lambda du Sagittaire. Le 29, entre 18 et 20h, conjonction avec un mince croissant de lune de 4 jours. La deuxième planète, ce sera Mars, qui est donc juste après la Terre, qui se trouve donc dans la Vierge, et qui est visible
à la constellation de la Vierge, attention, lapsus révélateur.
Mars dans la Vierge, tout le monde se demande de quelle Vierge il s'agit, mon cher.
N'est-ce pas ? Nous parlons bien entendu de la constellation de la Vierge. Alors, Mars se lève le premier de ce mois à 2h50 TU. Son faible diamètre ne permettra pas d'observation intéressante, mais il est toujours intéressant de pouvoir voir Mars avec ses couleurs orangées. Phénomène intéressant pour Mars, entre le 21 et le 23, vers 3h du matin, toujours en TU, à l'est, une conjonction Lune, Mars et Spica la Vierge. Donc quand on parle de conjonction, c'est un rapprochement de ces trois éléments. Et c'est peut-être intéressant de repérer Mars par rapport à la Lune, et puis de repérer en même temps Spica.
C'est joli, en plus.
Et c'est joli en plus, oui. Parlons de Mercure, alors là on se rapproche une nouvelle fois du Soleil. Il se trouve également dans la Vierge, et visible à l'aube. Elle reparaît dans le ciel à l'aube vers le 10 de ce mois. Elle atteint son élongation maximum le 15, et se lèvera ce jour-là à 6h15. Soit une heure avant les premières lueurs. Un phénomène intéressant le 24 à l'aube, elle est en conjonction avec la Lune qui apparaît sous forme d'un très beau croissant fin. C'est intéressant de savoir qu'on pourra le repérer Mercure. Mercure n'est pas facile à voir et le fait d'avoir un croissant nous permettra de mieux le positionner.
Oui, c'est rare de voir Mercure.
Oui, c'est... Copernic, ouais. Nicolas Copernic, qui a imaginé l'héliocentrisme, n'a jamais vu Mercure. Il regrettait de ne jamais avoir vu Mercure. Et je suis dans son cas, j'ai surveillé le ciel des dizaines et des dizaines de fois, jamais je n'ai observé Mercure.
C'est vrai que c'est un phénomène rare pour les astronomes. Hein.
Ouais, je pensais découvrir Mercure le 11 août 1999, lors de l'éclipse de Soleil, où j'avais bien repéré où devait se trouver Mercure par rapport au Soleil, et au fond j'ai vu d'autres étoiles, mais Mercure je ne l'ai pas vu.
Et moi non plus je ne l'ai pas vu, donc je suis à peu près comme Copernic. Quoi.
Oui, mais oui, voilà, comme quoi. Ça va les suivre. Un petit Copernic. Quoi, hein.
Comment ça, petit enfin,
là, on parle de conjonction, il n'est pas évident, vous verrez Mercure. Hein. Alors ensuite, Saturne, alors, qui se trouve dans la constellation du Taureau, donc brille toute la nuit. Elle est en opposition le 19, et ce sera le moment d'en profiter pour essayer de voir quelques détails sur Saturne. D'abord, les nuages, étudier les anneaux avec la division de Cassini, et puis repérer les 3 ou 4 satellites un peu plus importants qui tournent autour de Saturne. Un phénomène intéressant par rapport à Saturne, le 20 au soir, la planète aux anneaux passera à 2 minutes d'arc d'une étoile de 7e grandeur, spectaculaire voisinage à suivre dans une petite lunette. A noter que Titan, donc un des satellites de Saturne, sera disposé symétriquement à cette étoile par rapport à Saturne. Jupiter. Donc, ainsi qu'entre, est aussi dans la constellation du Taureau, et ce sera la vedette du mois. Comme Saturne, elle est observable toute la nuit dans de bonnes conditions. En effet, elle culmine à 62 degrés d'altitude.
Donc, très haut dans le ciel.
Très haut dans le ciel. Loin des zones donc de turbulence de l'atmosphère. Elle est à l'opposition le 28 du mois. C'est-à-dire que nous avons un alignement parfait, Jupiter, Terre et Soleil. Et que la distance par rapport à la Terre sera donc la plus courte.
Je suis sûr que les astrologues vont nous pondre encore un truc avec un alignement de trucs, machin. Avec un...
Et c'est là que les occultations des satellites de Jupiter arrivent, que le temps sera le plus court, si vous voulez.
Voilà.
La lumière mettra moins de temps pour...
Par rapport à ce que vous avez dit. Parce qu'en fait, elle est en opposition, donc en fait, elle est au plus près de chez nous.
Oui, enfin, elle est au plus près, mais c'est quand même à 600 millions de kilomètres. En vélo, vous voyez le moment que ça va nous prendre.
Sauf s'il y a Viran qu'avec... Sont
oui, oui.
Alors là, vous aurez tout le loisir contempler les nuages, la tache rouge et le balai des satellites galiléens. Novembre sera un bon mois pour faire des dessins de Jupiter, puisque ça sera plus proche.
N'est-ce pas, mon cher Régis ?
Avec grand plaisir.
Si nous parlons un tout petit peu des balais des satellites, dans la nuit du 31 au 1er novembre, donc très prochainement, Io et Ganymède à l'ouest, Europe et Calypso à l'est.
Calypso, c'est le truc à Cousteau.
Hein? Calypso, oui.
Calypso.
C'est un problème de navigation.
Régulièrement.
On ne sort pas du sujet de M. Compion.
Mais ils naviguaient encore aux étoiles sur la Calypso. Ils n'avaient pas d'horloge.
Non, là, c'est Calypso. Hein. À partir de 23h55, Io disparaît dans l'ombre de la planète. À 0h28, c'est au tour de Ganymède. Dans la nuit du 1er novembre au 2 novembre, Io passe cette fois devant la planète. C'est un petit peu comme une valse à deux temps. D'abord l'ombre de Io, puis Io. Ça a repéré dans le nimbre de l'astre, parce que les couleurs seront de la planète et de Io sont sensiblement les mêmes. Le repérage donc sera difficile. Et sur le nimbre de Jupiter, les teintes sont un peu plus sombres et donc vous aurez peut-être la possibilité de repérer et l'ombre et le satellite. Et pour ce faire, il faudra un télescope de 115-900 avec un grossissement de 100 pour prétendre profiter du spectacle.
C'est très technique, hein. Sinon, le limbe Tintin, comme on dit. Hein.
Oui, bon, vous m'excuserez si j'emploie des mots trop techniques, n'est-ce pas ? Mais vous faites comme moi, vous allez au dictionnaire voir ce que veut dire l'âme, comme ça vous le saurez.
C'est bien, il faut inciter les gens à ne pas être passifs.
Voilà. Alors, Io et son nom mettent un peu plus de 2 heures pour traverser le disque jovien. Si vous manquez ce spectacle, vous aurez au cours du mois d'autres occasions, dans les nuits du 8 au 9, du 15 au 16, et puis à la fin du mois, de revoir ce spectacle. Europe sera également repérable avec son nom dans la nuit du 26 au 27. La tache rouge est également à suivre. Parlons juste des autres phénomènes du mois. Quand je vous disais que c'était copieux pour le mois de novembre...
Ouais, normalement, tu avais 5 minutes, hein, dépêche-toi.
Et j'avais 5 minutes, et ça avait déjà moins 6.
Ça le 5 novembre... La dilatation du temps.
Le 5 novembre, à 0h50, occultation par Jupiter d'une étoile de magnitude 9,3. Le 8 novembre, rapprochement rasant de Jupiter avec une étoile de magnitude 8,4. Le 11 novembre, vers 20h, temps universel, rapprochement Jupiter, Saturne, Lune, Pléiade et Iade. Ce rapprochement aura également lieu chaque mois entre décembre et avril 2001. Puis il faudra attendre 2020 pour retrouver les deux planètes géantes côte à côte dans le ciel nocturne.
Non, il faut se dépêcher en fait. Hein.
Faut se dépêcher.
Si je comprends bien, ça passe tout le temps devant les étoiles, les planètes. Enfin, on s'y attendait un peu, non ?
Oui, c'est pas normal. Une étoile ne va peut-être pas occulter la planète.
Voilà.
Dernier phénomène, essaim des Lénoïdes dans la nuit du 17 novembre.
Les Léonides.
Léonides.
Léon du Lion,
tout ça. Avec un maximum d'étoiles filantes prévu vers 23h45. Dernier point.
Rappelle le jour.
Le 17 novembre.
Voilà, c'est important.
Oui.
Ah, le jour de notre conférence de Michel Marcelin.
Donc à la sortie de la conférence, hop, observation des Léonides.
C'est voilà. Plus facilement au petit matin pour les observer d'ailleurs.
Juste dernier point,
un coup, alors.
Je voulais vous parler des satellites artificiels. On pourra suivre Mir entre le 5 et le 20 novembre en soirée.
Je ne sais pas si Stéphane a prévu de donner des infos sur Mir.
Si.
Parce qu'apparemment, il voulait la balancer dans l'atmosphère, donc vous aurez les infos dans les actualités.
Tant qu'elle est là, autant en parler.
Voilà, tu as raison.
Et quant à la station internationale, elle sera visible dans le ciel du petit matin à partir du 15. Et en principe, elle sera habitée par son premier équipage permanent.
Alors, si vous regardez Mir dans le couchant, vous aurez Mir couleur. Ça ne fait pas de publicité.
Daniel, voilà la honte. C'est pas croyable. Merci Pierre. Maintenant, je donnais la parole à Régis Larcher qui va nous parler des quatre types de photographies astronomiques, parce que malgré ce que certains peuvent croire, il y a plusieurs types de photographies astronomiques. À toi Régis, vas-y, installe-toi.
Là, c'est bon, t'es prêt ? J'ai pas de petit générique, moi ?
Non, t'as pas de générique, toi.
On n'a pas tous droit.
Restriction budgétaire ?
Bon, non, c'est pas budgétaire, c'est que si on en met trop après... Hein.
Bien, alors donc, les quatre méthodes de photographie astronomie, ou d'astrophotographie, comme on dit, en fait, se déclinent comme suit. Il y a d'abord la photo sur pied photo, entendez, la photo en parallèle, la photo au foyer et la photo par projection. Alors, ces différentes méthodes, en fait, on les applique en fonction du sujet que l'on souhaite immortaliser et du matériel qu'on a à sa disposition. La première méthode, donc, la plus simple, celle de la photo sur pied photo, c'est en fait une méthode qui nécessite très peu de matériel, puisqu'il faut d'abord un pied photo, comme son nom l'indique, qui soit le plus robuste possible, pour éviter donc les vibrations liées au vent, surtout.
Éviter de sauter à côté aussi,
c'est oui, éviter de faire ça dans un champ où il y a un troupeau de bisons qui passe, par exemple, c'est pas très confortable.
Surtout à Nantes, le troupeau de bisons.
Voilà. Il vous faut bien évidemment un appareil photo, alors l'indispensable boîtier réflexe, c'est-à-dire l'appareil avec le déclencheur souple et la pose B, c'est-à-dire une pose qui permet d'enregistrer pendant un certain temps l'émission venant des étoiles. Ça, c'est une pose qui n'est pas instantanée, qui n'est pas d'un dixième de seconde ou d'un cinquantième de seconde, mais qui peut durer plusieurs minutes, voire plusieurs heures.
Donc en vrai, il faut proscrire les jetables et les automatiques.
Absolument, parce que les automatiques vont vous prendre la lune au flash, par exemple.
Voilà.
Et c'est très peu efficace à cette distance.
Voilà, il faut avoir un très bon flash.
Ouais.
J'ai vu des gens prendre en photo le planétarium au flash. C'est pas mal, hein.
Alors donc, ce boîtier réflexe, il vous suffit de le munir d'un petit objectif standard, je dirais un 50 mm, ça fait très bien l'affaire. Vous pouvez également y mettre un grand angle, c'est un petit peu au choix de ce que vous voulez faire par rapport au sujet que vous voulez photographier. Il est intéressant dans ce genre de prise de vue d'avoir des avant-plans, des premiers plans, qui peuvent être un monument, un relief quelconque, des arbres, et éventuellement une conjonction, comme nous l'a souligné Pierre, il y en a quelques-unes ce mois-ci. Donc il faut bien soigner le cadrage, effectivement, de ce que l'on veut faire. Essayez de chercher plutôt l'esthétique. Et qu'est-ce qui va se passer quand on va déclencher notre photo ? On va éviter
de... L'oiseau va sortir.
Voilà, la chouette.
Elle sort là.
Je dirais que donc il faut éviter absolument les vibrations, ça on s'en doutait un peu. La meilleure méthode consiste en fait à se munir d'un carton plus grand que le diamètre de l'objectif, peint en noir, à placer ce carton avant de déclencher devant l'objectif, de déclencher ensuite la pose photographique, et puis de retirer le carton... après quelques secondes d'attente qui permettent aux vibrations dues à l'appareil photo, puisque vous savez que dans un réflexe le miroir, enfin si vous le savez pas je vous l'apprends, je me permets de vous l'apprendre, le miroir donc se relève et ça crée des vibrations, le rideau s'ouvre pour laisser entrer la lumière, ça crée des vibrations qui sont donc très gênantes, qui vont faire un bouger sur la photo. Il faut donc se munir de ce carton, ouvrir en fait, faire en fait un rideau artificiel, c'est-à-dire qu'on va enlever le carton et puis on va le remettre quelques minutes avant, enfin quelques secondes avant de terminer la pose, afin que celui-ci ne vienne pas perturber l'appareil.
En fait, ce qui se passe, si vous mettez du carton noir, mais en fait, vu qu'il y a un carton noir, la pellicule ne reçoit pas de lumière, en fait, ça perturbe pas la prise de photo qui a été faite entre les deux coups de carton.
Voilà, c'est un deuxième obturateur, mais voilà, qui est totalement indépendant de l'appareil, voilà, que l'on tient à la main, en fait. Alors, c'est une méthode qu'il faut bien retenir, puisqu'on s'en sert dans toutes les pratiques astronomie, que ce soit au foyer d'un télescope ou je dirais directement sur un petit téléobjectif, c'est une méthode à retenir. Alors les sujets que l'on peut photographier grâce à cette méthode sur pied photo sont assez divers, puisque le plus simple c'est d'abord de laisser, je dirais, faire les choses pendant 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, selon l'état du ciel, parce qu'il ne faut pas qu'il soit trop lumineux. On a donc ce qu'on appelle des filets d'étoiles, c'est-à-dire qu'on va voir tourner la Terre, comme disait M. Foucault, mais ce n'était pas avec la même expérience. On va donc voir tourner la Terre, et ces filets d'étoiles vont être, je dirais, d'autant plus horizontales qu'on va s'approcher de l'équateur céleste. Horizontaux, pardon. On peut également faire une photo de la région polaire et faire ce que l'on appelle une circumpolaire, c'est-à-dire qu'on va voir toutes les étoiles qui auront l'apparence de tourner autour du pôle céleste. C'est assez joli. En plus, on peut, durant cette pose, comme la lumière s'accumule pendant un certain temps sur la pellicule, voir la couleur des étoiles. On va tout de suite remarquer que certaines sont blanches, d'autres plutôt jaunes, oranges, d'autres seraient plutôt rouges, d'autres plutôt bleues, etc. On peut donc ainsi, sur des poses plus courtes par contre, se créer un petit album des constellations, pouvoir reconnaître les différentes constellations, par exemple avec un film diapositive qui pourrait être projeté ensuite lors de manifestations ou lors de soirées entre amis. Ça permet d'identifier plus facilement que sur une carte, puisque là, on a en plus le paysage en avant-plan, ça donne une échelle.
Oui, on montre où on était cet été, j'étais sur la Grande Ourse, j'étais sur...
Par exemple, c'est mieux que les photos de vacances.
Absolument.
Quoi. C'est plus original. Donc les conjonctions, ça j'en ai parlé. Il est également possible avec de petits téléobjectifs de faire des poses très courtes sur la Lune. Mais là, on est confronté à un dilemme, c'est-à-dire qu'il faut savoir que la Lune, sur un négatif, n'a que 9 mm de diamètre par mètre de focale, ce qui fait que la hauteur de votre négatif faisant en gros 24 mm... Hein,
c'est pour ça que ça s'appelle les 24-36.
Voilà, 24 mm de haut, 9 mm c'est pas énorme, ça permet quand même de la voir en entier, mais on n'a pas beaucoup de détails, on voit juste les mers et quelques grandes formations dessus. Par contre, il faut limiter le temps de pose puisqu'on n'a pas d'entraînement équatorial, c'est-à-dire qu'on ne suit pas le mouvement des étoiles, la Terre allant bouger pendant la pause, il faut faire une pause très courte.
Comme l'a dit M. Campion tout à l'heure, en fait, vu que ça va très vite dans le ciel, c'est pour ça qu'il faut, faire une pause courte.
Plus on utilise une focale longue, plus le mouvement apparent va être rapide, en fait. On s'en aperçoit dans un télescope, hein, lorsqu'on coupe les moteurs sur un télescope avec un grossissement très fort, ça traverse le champ à une vitesse affolante, vertigineuse. Alors la seconde méthode qui est en fait un...
Donc là, la première, c'était...
C'était la méthode sur pied photo.
Ouais, voilà.
C'était la première... sans instrument.
Voilà. Un pied photo, comme on peut en trouver un peu partout, un objectif standard, un déclencheur, et on y va, quoi.
Pourquoi tu parlais de mètre de focale, alors
à propos du téléobjectif. Puisque il est possible de faire des photos sur pied photo avec un gros pied photo et un téléobjectif. Mais ça ne s'applique qu'à la Lune, en fait. Donc la méthode la plus, je dirais, astronomique, c'est donc d'avoir un entraînement pour suivre le mouvement des étoiles, compenser le mouvement de la Terre. Et donc c'est ce qu'on appelle la photo en parallèle. En parallèle de quoi ? En parallèle d'un instrument guide, tout simplement. On va se servir d'un instrument principal, une lunette ou d'un télescope, sur lequel on va fixer notre appareil photo et on va viser une étoile qui va nous servir de référence et on va vérifier que ce télescope suit bien le mouvement de l'étoile pendant toute la durée de la pose. On utilise un petit peu le même matériel au niveau photo que le précédemment décrit, c'est-à-dire le fameux boîtier, le déclencheur souple, le carton d'occultation toujours pour éviter les vibrations. Il faut veiller à ce que la fixation de l'appareil sur le télescope soit à la fois orientable pour pouvoir cadrer ce que l'on veut photographier, mais qu'elle soit aussi bien rigide, de manière à ce qu'il n'y ait pas, pendant la durée de la pose, de flexion entre l'instrument qui sert de guide, donc de référence, et l'appareil photo.
Il ne faut pas en fait qu'il bouge du tout sur son...
Voilà, il faut qu'on puisse régler l'endroit où on vise, en fait, sans que pendant la pose, ça puisse se dérégler, en fait.
Ou que ça tombe tout court.
Ou que ça tombe, oui. Alors, un sujet justement à propos de tomber, il y a souvent des gens qui me disent « Oui, mais moi j'ai un zoom 200, etc. » Les zooms sont constitués de beaucoup de lentilles, donc ça, c'est pas terrible en astronomie.
Ça altère un peu. Hein.
Ça altère, oui, à chaque passage de lentilles.
Pour ça, il y a aussi des très grandes disparités au niveau des prix, puisque en fait, ça dépend aussi de la qualité de votre lentille.
Oui.
En fait, en astronomie, plus vous traversez de verre, plus votre image... est altéré.
Ouais.
Et en fait, moins c'est bien. Donc après, il y a différentes qualités de verre.
Dans un sens, on bouffe de la lumière et aussi on introduit ce qu'on appelle du spectre secondaire, c'est-à-dire qu'on va avoir des couleurs jaune, bleu, un petit peu dans tous les sens.
L'aberration. Aberration chromatique. Vous connaissez les termes
techniques. Vous voyez, encore des termes techniques. Mon cher Pierre, tu vois, t'es pas le seul. alors l'instrument indispensable pour faire le guidage donc sur cette étoile, c'est bien sûr d'avoir un moyen de contrôle, un viseur en quelque sorte qu'on va mettre sur le télescope, qu'on appelle un oculaire réticulé, puisque celui-ci comporte donc un fil en croix comme un viseur, un réticule, comme un viseur de fusil de chasse ou etc. Donc ce réticule doit être éclairé pour nous permettre de le voir dans la nuit. Et on va donc suivre pendant toute la durée de la pose le mouvement de cette étoile et compenser au fur et à mesure pour bien que ça reste centré. Il faut donc choisir une étoile qui soit le plus proche possible du champ que l'on va photographier. Il ne faut pas aller viser une étoile au plein sud et puis photographier à l'ouest par exemple, parce que c'est pas très recommandé. On va avoir encore des perturbations, ce qu'on appelle une rotation du champ. Et donc on peut utiliser des pellicules très sensibles, de l'ordre de 400 ASA, voire 1000 ASA ou plus
ISO.
Éventuellement.
ISO, comme dit.
ISO, oui, c'est la nouvelle norme.
C'est pas pareil.
Non, c'est que maintenant c'est plus normalisé.
Donc question d'appellation, c'est les mêmes sensibilités.
Ouais. Non, simplement c'est que c'est la nomination actuelle, c'est pour ça.
Voilà, tout à fait. Et je dirais que il faut aussi soigner la mise en station de son instrument, c'est-à-dire l'alignement parfait de la monture équatoriale avec le pôle céleste, de manière à ce que ça suive le mieux du monde. Alors les sujets que l'on peut photographier grâce à cette méthode sont un petit peu plus étoffés que par la méthode précédente. Les constellations, on peut également les photographier, mais cette fois-ci, ça bougera pas, on aura des étoiles bien ponctuelles. On pourra allonger la pose de manière à faire ressortir certaines nébuleuses à l'intérieur de ces mêmes constellations.
Justement, je vous invite à aller sur Internet pour aller voir les photographies astronomiques qui sont faites, puisqu'en fait, ça peut vous donner des idées de ce qui peut être fait, puisque bien sûr, sur la photo, il y a un descriptif avec quoi c'était fait.
Oui, tout à fait, le matériel.
Certaines ont été faites juste en parallèle d'un instrument, et vous verrez un peu comment ça marche.
Oui, sur le site de la SAN, bien évidemment.
Oui, bien sûr. Bien
sûr. Alors donc...
Ailleurs, ce n'est pas intéressant.
Il y a également la possibilité de se photographier des conjonctions, toujours, des éclipses de lune, puisqu'il y en a une à la fin de l'année. La lumière cendrée de la Lune, là on peut allonger un petit peu le temps de pose, donc on peut enregistrer la lumière cendrée, c'est-à-dire...
Pour les fumeurs.
Voilà. Bien évidemment la Voie lactée, qui est riche en nébuleuses, que l'on peut enregistrer sur la pellicule. Les galaxies, j'en citerai que deux, c'est-à-dire M31 et M33, qui sont les plus grandes.
La galaxie d'Andromède et celle du Triangle.
Et celle du Triangle. Mmh. Ainsi que les nuages de Magellan, mais que l'on ne peut pas photographier sous nos latitudes, bien évidemment. Il y a également la possibilité de faire de magnifiques photos de comètes brillantes lorsqu'elles passent. Et puis les étoiles filantes, les Léonides dont on parlait tout à l'heure, c'est un bon moyen de les enregistrer, d'avoir un petit télescope comme ça en guidage, et de faire une pause de 5 minutes, voire un quart d'heure, en espérant que le fameux bolide va passer juste dans le champ au moment où on est en train de prendre la photo, ni avant ni après. Hein. Là, il faut jouer de chance. La troisième méthode...
Donc en fait, je reprends un peu pour les gens qui coûteraient un peu d'une oreille plus ou moins distraite, même s'il faut être attentif à ce qu'on dit. Donc la première, c'était photographier avec un pied tout bête et puis un boîtier réflexe. La deuxième, c'est le boîtier réflexe qui est monté à côté du télescope.
En parallèle.
Qui est attaché au télescope, en fait, pour simplifier, et qui est en parallèle. Donc l'avantage avec le télescope, vous recadrez, soit vous avez la possibilité d'avoir un moteur, donc là, ça suit tout simplement, et vous n'avez pas les filets d'étoiles comme il y avait sur la première. Ça s'adresse à une personne un peu plus qualifiée.
Disons que la monture équatoriale est obligatoire, et il ne faut pas non seulement avoir le matériel, il faut aussi la mettre en station parfaitement. Et ensuite, il faut jouer de patience et griller de la pellicule. Hein. Il faut absolument se faire la main, il n'y a pas 36 solutions. Une autre méthode qui consiste à prendre des photos directement au foyer du télescope, c'est-à-dire qu'on va se servir du télescope comme d'un super téléobjectif en quelque sorte. Cette méthode est encore un petit peu plus complexe que la précédente, puisqu'elle suppose d'avoir une lunette qui cette fois-ci va servir de guidage au télescope, donc une lunette qui sera montée en parallèle au télescope, avec une distance focale donc supérieure à celui-ci, pour voir, je dirais, les petits défauts de suivi bien avant que ceux-ci ne soient sensibles sur la pellicule. La première solution de la lunette est la plus couramment utilisée. La deuxième solution, c'est ce qu'on appelle le diviseur optique, c'est-à-dire une pièce qui permet de diviser le chemin optique entre, d'un côté, l'appareil photo, et d'un autre côté, un oculaire réticulé. Donc toujours ce même oculaire qui va nous servir à viser notre étoile et à vérifier qu'elle est bien dans le champ et qu'elle ne bouge pas. Là, on peut faire des pauses allant jusqu'à plus d'une heure et s'attaquer à ce qu'on appelle le ciel profond, c'est-à-dire la photographie détaillée des galaxies, des nébuleuses, des étoiles double colorées également, des noyaux des comètes peut-être aussi. La Lune toujours est un sujet d'émerveillement. Les occultations d'étoiles dont on parlait tout à l'heure, puisqu'on peut avoir un suivi et un temps de pause qui le permettent.
Donc la seule différence avec la précédente photographie en parallèle, hein, c'est que c'est avant on n'avait pas de grossissement, on avait le grossissement, enfin, alors, si on peut dire, de l'appareil photo, alors que maintenant on se sert du télescope comme téléobjectif.
Voilà, c'est pas un grossissement, c'est en fait
un grand séparateur.
On a un gros téléobjectif sous la main, qui est le télescope. Mais la difficulté, c'est de trouver une lunette qui soit suffisamment lumineuse pour pouvoir guider sur une étoile dans le champ, et d'avoir en plus une distance focale suffisamment longue pour avoir une grande précision. Alors c'est-à-dire qu'il faut que le petit défaut, on le corrige avant même qu'il n'apparaisse sur la pellicule. Donc il nous faut un grossissement sur l'instrument guide qui soit bien supérieur au grossissement sur l'appareil photo.
Et pourtant on dit qu'il faut que la focale soit courte pour que l'objectif soit ouvert.
La focale du télescope doit être courte,
Ah mais la lunette,
doit être bien supérieure. Oui, absolument. Ah oui, c'est d'autant plus facile à guider. La dernière méthode qui est utilisée pour la photographie des planètes et de la Lune, qu'on appelle la photographie haute résolution.
Vous avez des objets lumineux, ouais, en fait. Il faut que ce soit, ouais, très lumineux. Là.
Très très lumineux. Ouais. Il s'agit en fait, je dirais, d'intercaler entre le télescope, la sortie du télescope, donc où on mettait notre appareil tout à l'heure, entre cette sortie et l'appareil photo, on intercale un oculaire. Cet oculaire va nous donner un grossissement et va nous faire ce qu'on appelle une projection, d'où le nom de la photographie par projection, va nous projeter l'image donné par le télescope sur la pellicule, sur le boîtier.
Donc en fait, là, on enlève le téléobjectif.
On enlève l'objectif de l'appareil photo. Voilà. On remplace par un oculaire entre l'appareil photo et la sortie du télescope. On va en fait ensuite jouer sur la distance qui sépare cet oculaire à l'appareil photo pour faire augmenter le tirage, c'est-à-dire augmenter le diamètre apparent de l'objet dans l'appareil photo sur la pellicule.
C'est un peu comme une loupe, hein. Quand vous mettez le soleil, vous voyez bien que la taille du soleil qui est en loupe, hein, il grandit ou il diminue, donc c'est, voilà, c'est un peu le principe.
Alors il faut trouver le compromis entre la dimension optimum et le temps de pose, puisque plus on va agrandir notre image, plus il va falloir poser longtemps. Et là, je parle de pose de l'ordre de 1 à 5, 6 secondes, voire même 8 ou 10 secondes pour Saturne quand on a des grossissements assez importants. Mais pendant ces secondes fatidiques où la photo va s'enregistrer, la turbulence, elle, va jouer de
turbulence, hein, c'est le déplacement de l'atmosphère.
Voilà, ça va empâter l'image et ça va brouiller un petit peu les détails. Alors, il faut trouver le compromis entre un grandissement nécessaire et suffisant, mais pas trop pour avoir des temps de pose relativement corrects, de l'ordre d'une seconde, toujours par occultation, avec le fameux carton devant le tube du télescope. Alors cette fois-ci, on a un grand carton, et donc pour éviter ces vibrations. Et là, malheureusement, il y a une méthode, et ensuite il faut absolument pratiquer pour faire un petit peu des tests en fonction de son matériel, en fonction de ses oculaires, de son boîtier photo. Par contre, pour cette dernière méthode, on peut éventuellement utiliser des appareils semi-automatiques, puisque les temps de pose sont courts, les piles ne risquent pas de se décharger pendant le quart d'heure d'une pose sur le ciel profond, par exemple.
Donc en fait, peux-tu résumer rapidement les quatre types de photographie astronomique?
Eh bien, la première, c'était donc sur pied photo, la plus, voilà, simple.
Hein,
donc,
et la plus moins onéreuse et la plus simple.
Voilà, c'est celle par laquelle il faut démarrer. En plus, c'est quelque chose qui permet de faire des vues assez esthétiques. La deuxième est en fait une amélioration de la première, c'est-à-dire qu'on remplace le pied photo par un pied articulé, en l'occurrence le télescope. On met notre appareil sur le télescope, en parallèle, et on vise un objet à côté, on se sert du télescope comme guide.
Avec une monture équatoriale.
Absolument. La troisième méthode, c'est donc on se sert du télescope comme d'un téléobjectif, et là il nous faut un deuxième instrument pour faire le guidage cette fois-ci.
Autrement, vous aurez des bougies en fait.
Ah oui, mis à part si vous avez un coup de chance et d'avoir vraiment un moteur qui suit impeccable avec une mise en station parfaite, ce qui est très rarement le cas de toute façon.
Voilà.
Et la dernière méthode, donc, qui est aussi plus facile peut-être que la méthode au foyer parce que les poses sont moins longues, c'est donc la photo par projection qui permet d'enregistrer les planètes, notamment Jupiter, Saturne, ainsi que la Lune, bien évidemment. Le Soleil aussi, avec un filtre, on fait de la même façon.
Donc le mieux, en fait, pour les gens, c'est de commencer à faire un peu de photographie de la première méthode, c'est-à-dire avec le pied photo, puis à la rigueur, de venir à la salle avec ses photos.
Absolument.
Ouais. Et l'intérêt d'être dans une association, c'est de pouvoir discuter, puis se donner un peu les petites combines à droite à gauche.
Si vous venez avec vos photos, en nous décrivant un petit peu la méthode que vous avez employée, voilà, on saura, je pense, voir quels sont un petit peu les défauts ou les points très positifs, justement, et vous apporter le meilleur conseil, et puis vous pourrez venir avec nous sur le terrain pour pratiquer.
Tu l'as peut-être dit, mais est-ce qu'il faut des pellicules couleur ou noir et blanc, ou est-ce que ça n'a pas d'importance?
Oh, ça n'a pas d'importance, c'est au choix de chacun. Le noir et blanc, ça a l'avantage de pouvoir se développer soi-même, donc c'est encore beaucoup plus enrichissant.
Pour ceux qui veulent, il y a un laboratoire à la SAN.
Absolument.
Pour développer les photos.
La pellicule couleur, pour tout ce qui est en fait constellation, nébuleuse, galaxie, a l'intérêt justement de la couleur, c'est-à-dire qu'on voit vraiment les zones rouges, des zones qui ressortent tout de suite de l'image. Elle a également un intérêt pour les planètes, notamment Jupiter et Saturne.
Tout à fait.
La Lune, quant à elle, bon, donne un aspect un peu jaunâtre, marron, verdâtre, jaunâtre, selon les instruments.
C'est pas vraiment génial, la Lune.
Non, il vaut mieux, à la limite, utiliser du noir et blanc.
Quand je parlais de combine aussi, c'est parce qu'il y a plusieurs marques de pellicules, toutes ne font pas la même chose. Il y a des pellicules qui sont mieux pour du planétaire, d'autres pour du linéaire, etc. Et aussi, il faut avoir la combine de trouver la bonne personne qui développe. Parce que si vous mettez ça dans des grandes surfaces,
il faut absolument.
Des fois, c'est pas bon. C'est des fois même pire dans un photographe professionnel qu'à pignon sur rue. Hein. C'est pour
il faut absolument taper sur les grandes surfaces. Préciser, lorsque vous donnez vos photos à développer, de les laisser en bande. Il faut absolument demander au laboratoire de ne jamais couper vos négatifs.
Il les coupe mal. En plus, il faut savoir que vous mesurez.
Non, c'est
surtout qu'il les coupe. Moi, ça m'est arrivé. On m'a coupé 15 minutes d'M13. Ça fait très très mal au cœur.
Et en fait, aussi, il faut savoir que vous photographiez quoi. En fait, c'est. c'est du noir sphère avec trois points blancs. Ouais. Et en fait, eux, ils ont un réglage entre guillemets automatique qui est en gros anniversaire et puis paysage. Donc, ils ont un bouton sur leur machine. Et vu qu'ils voient rien, et ben, ils développent pas.
Tout à fait. Donc, enfin, ceci dit, ils font certainement du très très bon travail pour des photos type anniversaire. Ouais, hein, on va pas les dénigrer.
Non, non, non. C'est pas la grande surface. D'ailleurs, c'est tout. Mais tout le labo en fait. Hein. Des fois, il y a des grandes surfaces qui sont très bien parce qu'ils ont trouvé un bon laboratoire. Ils le changent, ça devient minable. Donc, en fait, c'est vrai que c'est la difficulté. C'est un peu ça.
Il faut absolument leur demander. Ils le font de bonne grâce. Ils mettent un coup de marqueur sur la pochette. Laissez le négatif en bande et ensuite vous le récupérez.
Et marquer aussi, développer toutes les photos, même les ratées, parce qu'en fait pour eux, du noir avec trois points blancs, c'est raté.
Oui, tout à fait.
Alors pour vous, c'est une photo de constellation, donc c'est un peu dommage.
Et oui, comme c'est votre photo, elle a
une. Bon, c'est pas grave, vous la paierez pas en développant, vous serez obligé d'y retourner pour la développer, etc. C'est un peu compliqué.
Et si je comprends bien, les photos de constellation, on les paye pas puisqu'elles sont noires et qu'ils considèrent que c'est raté. Ça, c'est génial.
Oui, mais par contre, ils les développent pas. Ils ne les développent pas.
Ils développent, mais ils
ne
tirent
pas. En fait, ils développent la pellicule, mais donc tu payes le développement, mais tu n'auras pas le tirage papier de ta pellicule.
C'est pas grave, ça.
Bah, c'est ce que tu veux dire, tourner pour y avoir.
Non, tu regardes en négatif, comme font les professionnels. Ils ont bien des étoiles noires sur un fond blanc, n'est-ce pas?
Ouais, voilà. Mais c'est moins intéressant. Après. Oui. Puis même, c'est un peu petit. Hein. Ah, on va retrouver Stéphane Legac qui va nous donner les dernières nouvelles neuves astronomiques avec les Actus Astro. Alors Stéphane, donne-nous les dernières nouvelles neuves actuelles. Comment on dit ?
Alors on aurait l'impression ce mois-ci d'être autour de Galilée ou d'Herschel, car ce sont quatre nouvelles lunes qui ont été découvertes autour de Saturne. Ces nouvelles lunes, dont la taille varie entre 10 et 50 km de diamètre, ont été observées en août et en septembre. Elles orbitent très loin de Saturne, à plus de 15 millions de kilomètres, ont révélé donc des chercheurs lors d'un congrès de la Division pour les sciences planétaires de la Société américaine d'astronomie tenu en Californie. Avec ces découvertes, Saturne a maintenant 22 satellites et elle devance donc à nouveau Uranus et ses 21 lunes.
Ah, il y a une guerre entre Uranus et Neptune. Voilà, Saturne.
Voilà. Un observatoire du Venezuela a découvert en mars dernier ce qui pourrait bien être le deuxième plus gros astéroïde de notre système solaire. Cet objet fait de 300 à 700 km de diamètre, ce qui se compare assez bien à ceux de Cérès, 900 km, et de Pallas, 607 km. Le doute sur sa taille provient du fait que l'on ignore encore s'il s'agit d'un objet relativement petit, mais brillant, ou d'un astéroïde plus gros, mais de luminosité normale. Il orbite très loin du Soleil entre Neptune et Pluton, entre 4,3 et 5,6 milliards de kilomètres, et en fait le tour en 240 ans. Depuis 1992, les astronomes ont découvert 300 de ces objets transuraniens, au-delà d'Uranus. Mais celui-ci est de loin le plus gros et le plus brillant. Un amateur muni d'un télescope de 30 cm pourrait le repérer. Les cyclones de Jupiter font également parler de ce mois-ci. Ces cyclones qui agitent l'atmosphère de la planète géante sont connus pour leur stabilité. Le plus grand d'entre eux, la grande tache rouge, n'a pas changé depuis le début des observations, voilà 300 ans. Mais trois tempêtes plus petites, qui sont formées il y a 60 ans, viennent de fusionner entre elles. C'est la première fois que les astronomes observent un tel phénomène. Ordinairement, ces cyclones rebondissent lorsqu'ils s'approchent les uns des autres. Cette fois, des circonstances exceptionnelles ont joué en sens inverse. Les trois tempêtes se trouvaient dans une bande colorée au sud de la Grande Tache Rouge. Chacune faisait environ des milliers de kilomètres de côté et les vents y tourbillonnaient dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à la vitesse de 470 km à l'heure.
Oula, eh oui. Ça change de notre petite tempête à nous.
Ouais, c'est pas 150 km/h. Hein. Au début de 98, deux de ces tempêtes se sont approchées très près l'une de l'autre, mais Jupiter est alors passé derrière le Soleil, ce qui interdisait toute observation. Lorsque la planète géante est redevenue visible, quelques mois plus tard, les deux taches n'en faisaient plus qu'une. L'occasion perdue devait s'avérer ne pas être unique. À la fin de 99, la grande tempête, d'une taille de 9000 km, s'approcha dangereusement du troisième cyclone, légèrement plus petit. Un petit tourbillon de couleur foncée, tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, se forma entre les deux systèmes. Ces cyclones tampons servent habituellement à écarter deux tempêtes l'une de l'autre. Mais en décembre 1999, ce groupe passa au large de la Grande Tache Rouge. Le tourbillon tampon fut entraîné au loin et en mars 2000, les deux tempêtes s'enroulèrent l'une autour de l'autre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Trois semaines plus tard, il ne restait plus qu'un seul tourbillon d'environ 12 000 km de largeur. La Terre est-elle la seule planète à connaître des pluies et des averses, comme en ce moment ? Il semblerait que non. Titan, la plus grosse lune de Saturne, connaît sans doute elle aussi des averses quotidiennes. L'étude approfondie de son épaisse atmosphère a permis à un chercheur de l'université d'Arizona de repérer des nuages de méthane qui se forment et se dissipent chaque jour. Étant donné les températures glaciales de moins 180 degrés qui règnent sur Titan, ce gaz retombe sans doute sous forme de gouttelettes. Il faut savoir que l'atmosphère de Titan, 10 fois plus dense que celle de la Terre, est principalement composée d'azote et absolument opaque, sauf à certaines longueurs d'onde spécifiques. C'est en analysant le spectre de cette lune en lumière infrarouge que le spécialiste donc de la physique planétaire a réussi à obtenir un aperçu de ce qui se passe à quelques distances sous sa surface. Qu'est-ce qu'il a vu ? Des nuages de méthane recouvrant environ 1% de l'atmosphère se forment chaque jour puis se dissipent après 2 heures environ. À vous donc de choisir entre nos violentes pluies d'eau et ces ravissantes pluies de méthane titanesques.
Oh là 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 !
On va savoir si c'est de l'azote ou du méthane, mais je crois que c'est de l'azote avec des nuages de méthane.
Voilà, hein, c'est de l'azote et des nuages de méthane. Alors prenons un petit peu de hauteur et partons aux confins de l'univers. Une équipe internationale d'astronomes vient d'observer l'éruption de rayons gamma la plus lointaine jamais observée. Cette explosion d'une violence inouïe était des milliers de fois plus puissante que celle d'une supernova. On comprend mal les mécanismes en cause, mais on sait qu'elle est survenue alors que l'univers n'avait que 10% de son âge actuel, soit environ 11 milliards d'années. Le phénomène à l'origine de ces rayons gamma, quelle que soit sa nature, a dégagé en quelques secondes plus d'énergie que n'en produira le Soleil durant les 10 milliards d'années de sa vie.
Voilà.
Ce sursaut gamma a été observé par une équipe internationale à l'aide des télescopes de l'Observatoire européen à La Silla et au Mont Paranal. La luminosité de ce sursaut, détectée pour la première fois le 31 janvier, a atteint 1000 milliards de fois celle du Soleil. Les analyses de son spectre à l'aide du VLT ont ensuite révélé un décalage valeur rouge de 4,5, le plus haut jamais observé pour ce type d'objet. Le présent record était de 3,42. L'univers étant âgé de 12 à 14 milliards d'années, ce fort décalage vers le rouge indique que le sursaut a en fait eu lieu lorsque l'univers avait moins de 1,5 milliard d'années. La Voie lactée était alors en train de se former. L'équipe d'astronomes observe maintenant les alentours du sursaut avec le VLT afin d'étudier les propriétés de la galaxie qui l'abrite.
Ça bouge quoi.
Voilà. Une station spatiale en chasse une autre, Mir, dont on parlait tout à l'heure.
Voilà.
Donc mise en service voilà presque 15 ans, cessera de fonctionner au début de l'année 2001, février, ont annoncé lundi les autorités russes. Le vice-premier ministre a cette fois été catégorique, expliquant que l'opération de démantèlement de Mir était d'ores et déjà en préparation. Il a ajouté qu'un vaisseau cargo Progress serait lancé pour ravitailler la station en carburant en vue de sa destruction. Le président de Mir Corporation, Jeffrey Amber, a pour sa part estimé que Mir pourrait rester en orbite si Moscou avait la volonté politique de surmonter cette crise. Pour financer ses projets, donc Mir Corporation affirme pouvoir notamment compter sur l'homme d'affaires américain Dennis Tito, qui lui offre 20 millions de dollars pour séjourner au début de 2001 à bord de Mir. De son côté, la Station Spatiale Internationale, l'ISS, accueillera jeudi son premier équipage, constitué de deux Russes et un Américain. D'une longueur de 48 mètres, l'ISS pèse aujourd'hui quelques 60 tonnes et son volume habitable est de 264 mètres cubes. La construction de la station a commencé avec la mise en orbite le 20 novembre 1998 de son premier module construit par
les Russes. Vous avez suivi toutes les étapes dans les différentes actus.
Hein, voilà, on en parle un petit peu à chaque fois.
Voilà.
Donc c'est un cylindre d'environ 14 mètres de long et 4 mètres de diamètre, d'un poids de quelques 20 tonnes. Il doit aussi servir notamment de lieu de stockage. Le deuxième élément de l'ISS, le nœud de connexion américain Unity, s'est amarré à Zarya le 7 décembre 1998. C'est un cylindre de 5 mètres de diamètre, il comporte 6 points d'attache permettant la fixation de différents modules, etc., enfin des navettes spatiales. Sa longueur totale est de 12 mètres, son poids de 11 tonnes et demie, etc. Alors il servira à la fois de quartier d'habitation et de lieu de travail aux équipages de l'ISS, ainsi que de moyens de propulsion. Il est long de 13 mètres, pèse 19 tonnes et comporte 14 hublots, une cuisine, des équipements sportifs et des chambres individuelles pour les cosmonautes y sont installés. L'ISS, donc un projet qui réunit 16 pays, dont les États-Unis, la Russie, le Japon, le Canada et la France, devrait être achevé en 2006 selon les dernières prévisions. Ce laboratoire géant qui permettra aux cosmonautes de plusieurs pays d'effectuer des expériences scientifiques en orbite atteindra lorsqu'il sera terminé 108 mètres de long, 74 mètres de large avec un poids de plus de 450 tonnes et l'ISS restera en fonction au moins jusqu'en 2013. Il y a d'autres ingénieurs de la NASA qui s'amusent quant à eux beaucoup plus. Des tests ont été achevés en vue de la construction d'une structure spatiale gonflable. Une stratégie qui pourrait servir un jour à construire là-haut une antenne de communication, un capteur d'énergie solaire ou un gigantesque miroir de télescope. L'objectif de ces tests est en fait d'étudier la résistance de structures ultra-légères susceptibles d'évoluer dans un milieu, le vide cosmique, où il n'y a ni vent ni pression. La structure faite d'or a la forme d'un anneau de 6,4 mètres de diamètre et pesant 3,5 kg. Elle est 3 fois plus mince qu'une feuille de papier. Ceci n'est qu'un premier pas vers la construction de capsules spatiales ou sphériques ou pourquoi pas toute une station spatiale gonflable.
Attention au micro météorite dans ce cas.
Oui, c'est vrai qu'il va y avoir des tests pour ça. La NASA repart quant à elle à l'assaut de Mars. Celle-ci a relancé jeudi un vaste programme sur 20 ans pour l'exploration de la planète rouge qui culminera avec le projet franco-américain de retour sur Terre d'échantillons de sol martien. Ce nouveau plan, en retrait par rapport au projet précédent qui laissait espérer l'arrivée de l'homme sur la planète vers l'an 2020, prévoit tout de même une dizaine de missions en 20 ans. La stratégie scientifique mise en place pour ce nouveau programme est de chercher d'abord les endroits les plus intéressants par des vues prises d'orbite avant d'aller à la surface et d'étudier Mars. La première mission, lancée en 2001, consistera en un vaisseau qui se mettra sur orbite autour de la planète. Il en analysera la composition et tentera de détecter de l'eau ou de la glace sous la surface de l'astre. En 2003, la NASA enverra deux robots motorisés qui pourront se déplacer d'une centaine de mètres par jour et analyseront les roches.
Ah,
deux ans plus tard...
Beaucoup mieux que l'autre truc Rocky là, qui a fait 50 mètres,
je crois, ouais, 15 mais jours. C'était simplement... En fait,
il était téléguidé, c'était le problème.
Ouais. Donc en 2003, c'est-à-dire deux ans plus tard, un nouvel orbiteur, Mars Reconnaissance, s'élancera vers la planète. Il sera capable de prendre en photo des objets de 20 à 30 cm, soit c'est de la taille folie, d'un ballon de volet. En 2007, deux autres missions sont prévues. L'une d'entre elles consistera en un laboratoire scientifique mobile qui préparera la future mission de retour d'échantillons. L'autre reste à déterminer, mais il pourrait s'agir d'un ballon ou d'un avion qui permettrait d'observer de très près de vastes régions de la planète. Ensuite, les projets actuels prévoient le lancement d'une première mission de retour d'échantillons en 2014 et d'une seconde en 2016, une mission conjointe avec la France pour ramener de 200 à 500 grammes de roche. Mais, a ajouté l'agence spatiale, certaines options qui accéléreraient l'exploration sont en cours d'étude, y compris la première mission de retour d'échantillons dès 2011. Ah ouais. Échaudée par ses récents échecs, la NASA affiche donc sa volonté de ne pas brûler les étapes dans sa conquête de Mars. Mais ses buts restent les mêmes, à savoir approfondir nos connaissances sur l'histoire de la planète et notamment découvrir si elle a un jour abrité la vie. Pour terminer cette revue de l'actualité, bon anniversaire à Ariane 4. La 100e fusée Ariane s'était lancée hier matin avec succès de la base spatiale de Kourou en Guyane française pour placer en orbite le satellite Europstar 1, ou Europstar 1, le premier satellite de télécommunication d'un nouvel opérateur qui s'appelle Europstar United Kingdom Limited, une société née du partenariat entre Alcatel et L'Oral Space and Communication.
Ça veut dire que c'est le 100e tir des Ariane ou d'Ariane 4 ?
D'Ariane 4.
Oui, c'est ça, parce qu'il y a eu déjà il y a longtemps le 100e tir des Ariane, mais là, ça veut dire que ça fait 100 fois qu'on a Ariane 4.
Voilà.
C'est très très bien.
Voilà.
Merci Stéphane. Maintenant, Daniel Warling va nous narrer l'histoire. La SAN, voyage à Paris. Donc, il était une fois.
Il était une fois. Merci Thierry. Alors moi, on vient de parler de choses très technologiques, comme on dit aujourd'hui, avec des fusées Ariane, des choses, des stations Mirecouleur, etc. Et nous, qu'est-ce qu'on est allé faire à Paris? Vous me direz, nous, les provinciaux de la SAN, n'est-ce pas? On a beau être correspondant régional de la Société Astronomique de France, nous voilà caracolant à Paris. Dans la grande capitale, nous ne sommes pas allés aux Folies Bergères, nous sommes allés dans l'une des plus anciennes institutions de France, l'Observatoire de Paris. Qu'allions-nous faire à l'Observatoire de Paris, diantre ? Alors, il faut savoir qu'il y a
des adhérents de la SAN et des gens du public nantais qui sont venus avec nous.
Tout à fait, Thierry, mon cher Thierry. Et effectivement, c'est un voyage qui inaugura en quelque sorte notre souhait de faire un voyage annuel. Avec bien sûr les membres de la Société d'Astronomie et le public peut nous accompagner. Donc on y va, on prend un car et puis zoom. Alors on est allé, effectivement, on a commencé par l'Observatoire de Paris parce que c'est réellement, non pas l'une des plus anciennes institutions, mais c'est aussi l'une des plus prestigieuses. On va voir tout ce qui a été fait dans cet observatoire. C'est absolument remarquable. Et bon, moi je m'attendais un peu comme beaucoup de gens à une espèce de musée. Alors bien sûr, je savais qu'il était toujours actif. C'est d'ailleurs un des premiers observatoires et de France et du monde. Il faut savoir, et on y reviendra, qu'il comporte aujourd'hui les trois composantes qui sont Paris-Ville. Hein, ça se trouve d'ailleurs près d'Enfer-Rochereau, dans le 14e. Qui était autrefois, on y reviendra aussi, un lieu qui était presque désert. Enfin, c'était la banlieue de Paris. Maintenant, c'est totalement englobé. Et il comporte donc depuis 1926, je crois, oui, c'est cela, l'observatoire de Meudon,
voilà.
Qui a été construit bien avant, puisqu'il a été construit après la guerre de 70. Ils ont récupéré un vieux château qui était à moitié délabré, et puis ils ont construit l'observatoire de Meudon sous l'impulsion de Jules Janssen, pour y développer l'astronomie physique, ce qu'on appellera plus tard l'astrophysique. Et en 1926, on rattacha Meudon à l'observatoire de Paris. Maintenant, ça s'appelle l'observatoire de Paris à Meudon. Et troisième composante, c'est le fameux radioastronomie, donc avec le grand radiotélescope de Nancy, qui se trouve en Sologne, qui est rattaché depuis 1953 à l'Observatoire de Paris, sous l'impulsion, ça a été né sous l'impulsion des Normaliens, l'École Normale Supérieure de Paris, et ça a très vite été rattaché à l'Observatoire de Paris.
Donc en fait, la SAN, on a visité l'Observatoire de Paris intra-buros et l'Observatoire de Nancy. Il sera pour un prochain voyage qu'on ira voir Meudon.
Alors, quelques mots d'histoire, parce qu'on y est allé, bien sûr, on va voir non pas des vieilles pierres et d'histoire, mais on rappelle que l'histoire des sciences, c'est, en même temps, ça nous raconte comment la connaissance actuelle s'est élaborée. C'est quelque chose d'extrêmement passionnant pour qui aime les sciences, et d'ailleurs, c'est le public et nous-mêmes, nous avons été enthousiasmés. Alors, quelques mots de cette histoire de l'Observatoire de Paris. D'une part, il a été fondé. Alors, par qui a-t-il été créé ? Qui c'est qui a créé l'Observatoire ?
Cassini, c'est pas Cassini, non ?
Il était le premier directeur.
Ah bah oui, Cassini a été directeur.
C'est,
oui,
c'est
oui,
sous l'impulsion de Louis XIV.
C'est Louis XIV. Donc c'est en 1667. C'est à la grande époque où on a vu l'émergence de ce qu'on appelle les sciences modernes. Les États se sont aperçus que pour pouvoir diriger, pour pouvoir prévoir l'avenir, vous avez toute l'époque de Colbert où il a planté des forêts pour que les voiliers du XXe siècle aient des mâts, n'est-ce pas ? Donc ces gens-là étaient prévoyants et avaient une foi absolument absolue et quelquefois naïve en la science. Et puis, on a donc fondé les académies. Il y a eu l'académie, donc l'Institut de Paris. On a voulu aussi se démarquer de ce qu'on appelait la scolastique, c'est-à-dire la science faite dans les écoles d'une manière un peu figée, pour faire ce qu'on appelait la science moderne, expérimentale, avec des scientifiques qui étaient payés pour aller de l'avant et faire des mesures, beaucoup de mesures, etc. Alors, l'Observatoire de Paris était d'abord une émanation de l'Académie des sciences, en quelque sorte, et... Mais comme il était un peu décentré, on l'a construit dans d'anciens faubourgs qui étaient entourés de couvents, de jardins de religieux. Donc on y avait le calme, n'est-ce pas ? Il n'y avait pas la pollution lumineuse. Et d'ailleurs, il était construit au-dessus d'anciennes carrières qui sont devenues les catacombes de Paris. Aussi, il a fallu consolider le sous-sol. Il y a des aspects très drôles.
C'est vrai que les catacombes sont juste à côté de l'Observatoire.
Voilà. Et vous savez qui a construit l'Observatoire de Paris ? C'est le frère de Perrault, de Charles Perrault. C'est le frère
du conteur.
Le frère du conteur qui a écrit des contes. Alors, je ne vous dis pas tout, bien sûr. Alors, très vite, l'Observatoire a été... Il n'y a jamais eu de cession de l'Académie et on lui a donné un directeur indépendant. Les premiers directeurs, c'était ce qu'on appelle la dynastie des Cassini. Hein. Alors, on les a nommés, d'ailleurs, comme les rangs, les numérotés. Cassini 1, 2, 3, etc.
Alors, père en fils, hein.
Oui, bah, c'est assez drôle. Ils ont été très actifs.
Et puis, c'était pas, en fait, non plus, c'était de royauté. C'était vraiment parce que le fils était aussi compétent que son père, etc. Bah,
absolument. Non, c'était très logique.
Voilà.
Et alors, en fait, ils ont commencé par faire des tas d'observations. Donc, ils ont mesuré la durée de rotation de Jupiter, de Mars et de Vénus, en rotation sur elle-même des planètes, avec l'observation avec des instruments, puisque la lunette de Galilée était inventée depuis plus d'un siècle. Ils ont aussi eu ces énormes lunettes de plus de 15 mètres de focale où il fallait viser, il fallait chercher l'image avec son oculaire. Il y a vraiment que Cassini qui arrivait.
Non, c'est vrai, en fait, c'était pas une lunette solide. Il y avait pas de tube.
Il y avait une lentille au bout et puis on cherchait avec l'oculaire.
Donc, en fait, vous pouvez le faire chez vous. Vous mettez une lentille sur un arbre, vous prenez votre oculaire, vous essayez de viser la lentille et vous observez.
La façon de faire des photos. Alors, il a trouvé le deuxième et troisième satellite de Saturne en 1671-72. Et le premier avait été découvert par Huygens en 1655. Ah. Je ne le savais pas plus que vous, mais je l'ai sous les yeux.
C'est bien.
Et il a découvert aussi l'anneau de Saturne et la division.
C'est Huygens qui a construit la première pendule. La première pendule à balancier.
Voilà, Huygens. Christian Huygens, qui était danois. Ouais. Donc il a découvert aussi Cassini, la division de l'anneau de Saturne qui porte son nom, division de Cassini.
Alors, la bande noire,
ça, vous voyez ce que les photos. Tout l'aspect, disons, observation. Et par contre, très vite, l'Observatoire de Paris a été dévolu à l'astrométrie, donc à la mesure des angles, des positions d'astres, je pense que disait M. Campion, pour bien mesurer quand est-ce que l'astre passe au méridien pile poil. On a mesuré avec d'une part avec des lunettes méridiennes et aussi des quarts de cercle qui sont des espèces de sextants mais qui serviront plus après pour de l'astrométrie pour déterminer par exemple la longueur du méridien ou de l'arc de méridien terrestre pour voir la forme de la Terre. Alors j'y arrive assez rapidement, on s'est orienté d'une part donc vers l'élaboration de tables astronomiques pour les navigateurs et aussi pour les astronomes et la vitesse de la lumière, la géodésie. Alors évidemment, il y a l'épisode que vous avez évoqué avec le Danois Olaus Römer qui a mesuré la vitesse de la lumière en comparant les mesures réelles aux tables astronomiques, notamment à propos des satellites de Jupiter. Alors là, j'y reviens pas parce qu'on en parlait tout à l'heure. Et il y a eu tout un tas de travaux pour essayer de voir la forme de la Terre. Juste un petit aspect de cette... on pourrait parler de polémique, puisque vous aviez l'école française, les cartésiens, qui s'opposaient à l'école anglaise, les newtoniens. Newton, qui avait donc inventé la théorie de la gravitation universelle, par la gravité, il en avait déduit que la Terre devrait être renflée
à l'équateur, hein, un peu comme nous, avec un certain âge, on se renfle
à l'équateur. L'équateur,
voilà.
Comme les potirons de Halloween.
Et donc ça pâtit au niveau de la tête.
Tout à fait. Et en fait, les cartésiens disaient que, mais non, ça, la Terre devait être au contraire allongée, comme un citron.
Comme un ballon de rugby.
Donc c'était citron contre citrouille, quoi. Et en fait, ils avaient même mesuré que le degré, enfin la longueur de portion de méridien était effectivement plus longue au nord de la France et en Belgique qu'au sud de la France. Mais ça, c'était, ils savaient pas que ça faisait partie des incertitudes. Et au retour, pour trancher, on a envoyé les astronomes à Laponie, donc ce sont les fameuses expéditions extraordinaires là. Et au retour de l'expédition de Laponie, effectivement, on a vu que la longueur d'arc de méridien était quand même plus courte en Laponie qu'en France, donc on est Pérou, en faveur des Newtoniens. Pérou, il y a une
qui est partie au Pérou aussi, avec Bouguère. Bouguère, elle a contaminé tout ça. C'est une vraie épopée.
Cette épopée va être
est fou là-dedans.
Pierre Bouguère a croisiqué.
Bouguère est...
Comment? Alors, juste... Pierre Bouguère qui a croisiqué.
Donc en fait, cette épopée va être racontée par Jacques Gapaillard dans une conférence grand public.
Voilà. Alors, il y a un mot quand même très amusant, si vous me donnez encore un petit moment. C'est Louis XIV, Louis XIV, ce serait plutôt à dire. Alors, quand on a mesuré plus précisément les longitudes, n'est-ce pas, monsieur Campion?
Oui, on a pu refaire une carte de France.
On a refait une carte de France.
Telle qu'elle est actuellement, et la France a été rétrécie dans le sens de l'Angleterre. Et Louis XIV, il n'était pas content parce qu'il pensait qu'on lui avait enlevé le cinquième de son royaume.
Il disait ça par boutade, parce qu'il était convaincu de. Il était convaincu quand même de l'intérêt des sciences, et il avait simplement, en rigolant, il serait plus à dire qu'il était mal récompensé de la sollicitude qu'il portait à ses astronomes. Alors on va aller très rapidement pour clore, mon cher Thierry, car je vous vois trépigner. On va parler un petit peu de la période après qui est passionnante. Donc là, nous sommes dans la période royale. Que s'est-il passé en 1789, lorsque la nuit s'abattit sur la France, comme disait un vieux noble à la duchesse de Langeais, qui lui répondait, car c'était une moderniste. Ah oui, à quelle heure? Donc en fait, il s'est passé la Révolution française. On a voulu, comme disait l'autre, initialiser la France, ou réinitialiser comme un ordinateur. On a voulu tout mettre avec le système métrique, etc. Et comme l'observatoire était un observatoire royal, n'est-ce pas, on n'aimait pas beaucoup ce mot.
Ça fait un peu tâche.
Et on a créé en parallèle ce qu'on a appelé après le Bureau des longitudes, qui, comme son nom l'indique, avait pour mission de développer l'astronomie au profit des sciences, de la navigation et de la géographie, car le problème des cartes et de la longitude était vraiment crucial. Alors en fait, on a nommé à ce moment-là des directeurs temporaires de l'Observatoire de Paris, qui était un peu la dernière roue du carrosse. En fait, tout cela, ça n'a pas duré, car très vite, l'Observatoire de Paris va reprendre du poil de la bête, si l'on veut, parce que il y a des gens prestigieux qui en sont devenus directeurs. Alors, je vais parler tout de suite de ces directeurs, mais je parlerai rapidement d'un nommé Foucault. Vous savez ce qu'a fait Foucault, entre autres.
Il a inventé le gyroscope, il a prouvé que la Terre tournait, il a prouvé ça, et il a inventé les fameux courants que tout le monde connaît, les courants de Foucault.
Mais il a surtout, mon cher monsieur Campion, il a inventé le procédé d'argenture chimique des miroirs de verre. Autrement dit, plus besoin de tailler des miroirs métalliques sans arrêt, on avait là des miroirs indéformables, ça a été le début de l'astronomie moderne également. Alors... Il a aussi inventé des tas de choses, et notamment Michelson s'en inspirera pour son expérience, sa fameuse expérience sur la stabilité de la vitesse de la lumière. Alors, terminons par les directeurs successifs. Donc, en 1793, on nomma un directeur temporaire qui s'appelait Bouvard, qui avait fait des calculs qui étaient beaucoup plus pertinents que ceux de Le Verrier pour déterminer la position de Neptune. Il y a eu une polémique d'ailleurs entre Bouvard, enfin, qui était mort à ce moment-là, et Neptune quand il découvrit en 1846 la planète Neptune. Donc Bouvard, c'est 1793 jusqu'en 95, pendant 2 ans. Après, les directeurs temporaires désignés par le Bureau des longitudes, vous aviez Lalande, qui a duré 5 ans jusqu'en 1800. Vous aviez Méchain, qui a duré 4 ans, Delambre, 18 ans, lui, tiens. Et le fameux Bouvard, en 1822, il arrive, jusqu'en 1843. Et après, vous avez deux célébrités qui vont se succéder. Le fameux Arago, qui était une terreur, de 1843 à 1853, donc 10 ans. Et il avait un protégé qui s'appelait Le Verrier. Et sous son règne, on pourrait dire, en 1846, Le Verrier découvrira Neptune pour la plus grande gloire de l'Observatoire de Paris et donc de Napoléon par la suite.
Et en 1853, Arago meurt, et c'est Le Verrier en 54 qui, sur décret de l'empereur, qui prend la suite. Alors, parlons rapidement de Le Verrier, pardon, qui était un chimiste et qui était un polytechnicien et qui avait travaillé avec Gay-Lussac. Donc, c'est pas n'importe qui, mais c'était un sale type. Il avait un caractère épouvantable. Il a eu des pétitions de son personnel. Il a viré des gens. Mais il a donc, malgré tout, mené l'observatoire d'une main de fer et il a fait beaucoup de découvertes. Il était très apprécié. Juste un mot pour sa découverte de Neptune. En fait, Le Verrier, effectivement, il n'était pas seul. Un nommé Adams l'avait découvert avant lui, si ses supérieurs l'avaient cru et avaient donné suite à ses calculs. Voilà, donc l'épilogue, eh bien, l'Observatoire de Paris, on vous en parlera un autre jour sur ce qu'il est devenu aujourd'hui, où il s'y déroule des choses magnifiques, passionnantes.
On peut parler 30 secondes un peu de Nancy.
Exactement, c'est pour ça que je voulais effectivement accélérer un peu. Donc, on vous en parlera. Et Nancy, alors Nancy, c'est vraiment l'astronomie, on pourrait dire moderne, mais l'astronomie, une astronomie très différente. On ne regarde plus le ciel avec ses yeux ou des instruments dans le visible, dans la lumière, dans les longueurs d'onde courtes, on regarde dans les longueurs d'onde très longues, les ondes radio qui traversent les nuages. Donc on a une autre fenêtre sur l'univers. On écoute effectivement les nébuleuses, on écoute ce qui se passe dans le noyau de la galaxie. On entend d'autres, on voit ou on entend, je ne sais pas comment il faut dire, mais là aussi ça mériterait qu'on
fasse un zoom. On pourra faire une partie sur Nancy. C'est vrai qu'en fait on a visité Paris le samedi et Nancy le dimanche.
Et Nancy le dimanche. Alors Paris, ça a été très très passionnant. D'ailleurs, on fera venir ici à Nantes la guide, enfin l'astronome qui nous a servi de guide et qui nous a beaucoup, qui connaît l'histoire de l'Observatoire de Paris comme sa poche. Vous savez ce qu'il y a à l'Observatoire de Paris ? Il y a l'horloge parlante aussi.
Voilà, qui a hébergé l'Observatoire.
Voilà, donc vous voyez, hein, on ne s'est pas ennuyé, mon cher.
Tout à fait. Merci.